Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin.
Parole de femme.
Bernadette Okwaoulou, merci beaucoup d'être avec nous dans Le monde au féminin de VOA Afrique.
C'est moi qui vous remercie.
Vous êtes femme politique en République démocratique du Congo. Hein. Vous avez une longue expérience au sein de l'administration d'État. Vous êtes juriste de formation et vous vous présentez à la présidentielle de 2023. En tout cas, vous avez annoncé votre candidature. Dans un premier temps, pourriez-vous nous donner un petit peu une cartographie de votre parcours politique?
Je suis juriste. J'ai travaillé pendant 31 ans à la Société nationale d'électricité aux plus hautes fonctions. J'ai été pendant une douzaine d'années le secrétaire général de la Société nationale d'électricité, qui est une société d'État, bien sûr. J'ai été pendant 4 ans, de 2007 à 2010, j'ai été directeur général adjoint de la société. Dans mon parcours politique, j'ai été une personnalité indépendante de la majorité présidentielle du président Joseph Kabila. À ce titre, je participais au débat pour donner mon opinion sur la marche à suivre. Mais lorsque le président Kabila a décidé de ne pas respecter la Constitution, de solliciter un troisième mandat inconstitutionnel, de réviser éventuellement la Constitution, Alors, je suis partie, j'ai rejoint l'opposition et je suis actuellement dans l'opposition au président Tshisekedi parce que je n'ai pas apprécié le deal qu'il y a eu entre le président Kabila et le président Tshisekedi sur cette passation du pouvoir qui pour moi n'était pas constitutionnelle dans la mesure où je pense en âme et conscience que c'est Martin Fayulu qui avait gagné les élections. Bon, nous ne saurons pas la vérité puisque la CENI n'a toujours pas publié bureau après bureau le résultat des élections. Mais passons, ça c'est déjà le passé. Et actuellement, j'ai présenté ma candidature à l'élection présidentielle parce que notre pays est menacé de balkanisation. Ma candidature a pour but de défendre le pays, de défendre la population qui est massacrée et de protéger les richesses de notre pays. Défendre contre qui? Contre l'hégémonie du président Kagame qui, dans un délire hitlérien, a mis en œuvre la balkanisation de notre pays. Vous savez que les RDF de Kagame, sous couvert du M23, occupent une partie de notre territoire. Le président Tshisekedi, en choisissant la diplomatie, a fait appel aux troupes de la communauté des pays d'Afrique de l'Est. Et les troupes kenyanes, au lieu d'apporter leur soutien au FARDC pour déloger les M23 RDF de notre pays, se positionnent en tampon, comme un statu quo. Et ce qui m'a entraîné à poser ma candidature, c'est lorsque j'ai entendu ces pantins du M23 dire qu'il remettait des territoires occupés aux troupes kenyanes et qu'il refusait, qu'ils interdisaient au FARDC de venir sur ces territoires. Donc, là où il n'y a pas d'FARDC, il n'y a pas de souveraineté. Nous n'avons pas confiance à la communauté internationale. Nous avons besoin de personne. Nous avons besoin seulement du peuple congolais et de notre armée.
Bernadette Okwaoulou, si vous étiez à la tête de la République démocratique du Congo, comment est-ce que vous procéderiez pour faire cesser la violence armée dans l'est du pays?
Si défendre mon pays nécessite de faire la guerre au Rwanda, je veux être le président qui va faire la guerre au Rwanda. Nous devons chasser le président Kagame et ses troupes de RDC. Les troupes qui tuent à Beni, en Ituri, les ADF, soi-disant islamistes, ce sont les troupes du président Kagame et du président Museveni. Nous devons chasser toutes ces troupes de meurtriers de notre pays. Je veux que l'État congolais soit un État militaire, avec des casernes à toutes nos frontières. Nous en avons 9, avec des villes casernes à toutes nos frontières. Comme aux États-Unis, des casernes où les soldats sont bien traités, avec des écoles, avec des hôpitaux, avec des supermarchés, avec tout le confort social possible pour que notre pays devienne un État militaire. La priorité numéro un, c'est la défense nationale, la souveraineté nationale.
Bernadette Tokouaoulou, comment allez-vous procéder pour faire votre campagne, notamment pour la financer ?
D'abord, les femmes se sont mobilisées. Des femmes se sont mobilisées aux quatre coins du pays pour organiser ma campagne. Je leur en suis reconnaissante. Nous devons maintenant faire une coordination. Le premier objectif, ce sera de rassembler un maximum de femmes et aussi d'hommes. Mais je pense que les femmes doivent se mettre en tête. Parce que comme vous savez, dans la savane, ce sont les lions qui chassent, ce ne sont pas les lions. Et pour sauver notre pays, je pense que les femmes doivent se mettre debout. Elles sont les premières victimes, donc elles sont les plus concernées. Donc, nous faisons des coordinations à tous les niveaux du pays. Le premier objectif sera de pouvoir établir nos bureaux et de récolter les fonds pour payer cette caution.
De combien est cette caution ?
La caution est de 100 000 dollars. Pourquoi je fais appel aux femmes ? Parce que dans notre pays qui vit dans une misère endémique, avec un chômage endémique, en fait, ce sont les femmes qui font vivre les familles par leur travail dans l'informel. Je fais appel aux femmes parce que les femmes sont les premières victimes de la guerre. Souvent, on me critique parce que je suis une mère célibataire. Alors, je veux rappeler que ce sont les femmes dans notre pays de misère qui permettent à la population, à leur famille de survivre. Je veux rappeler que toutes les femmes de l'Est qui ont subi des viols et qui sont stigmatisées sont maintenant des mères célibataires forcées parce qu'elles ont donné, contraintes et forcées, elles ont donné naissance aux enfants des viols. Elles ont donné naissance aux enfants de la guerre. Je dis contraintes et forcées parce que dans notre pays, même un accouchement normal est problématique. Les femmes meurent en couche, que ce soit un accouchement par voie basse, que ce soit un accouchement par césarienne, on meurt en masse à l'accouchement. Bon, il n'y a pas que les enfants des viols. Nous sommes en guerre depuis 1998. Les femmes congolaises, nous avons mis au monde les enfants des troupes d'intervention. Nous avons mis au monde les enfants des Nations Unies, les enfants des troupes de la MONUC, les enfants des troupes de la MONUSCO, les enfants des troupes zambiennes, angolaises, tchadiennes, et j'en passe. Tous ces enfants sont là. Et nous devons reconstruire notre pays tel qu'il est, avec les enfants que nous avons mis au monde. Mais savez-vous qu'au moment où je parle, la classe politique est en train de s'asseoir pour créer des Congolais de deuxième catégorie, ne pourront travailler dans la sphère politique, occuper des hautes fonctions d'État que ceux qui sont de père et de mère congolaises. Alors les enfants des mères célibataires, les enfants des viols, les enfants de la guerre, les enfants abandonnés, les enfants de l'inceste, où est-ce qu'ils les mettent ? C'est pour ça qu'il est bon que les femmes se rendent compte que pour relever notre pays et construire le Congo de demain, il faut maintenant une femme à la tête de ce pays. Nous devons assumer le passif et nous devons reconstruire notre pays. Il n'y a pas que la guerre, il y a la reconstruction. Nos enfants n'étudient plus. Les enfants à l'Est n'étudient plus. Il y a deux générations qui n'ont pas fait d'études. À l'Ouest, au Sud, au Nord, les enfants font des études au rabais. Vous avez des bourgmestres, des ministres, des PDG qui ne savent même pas s'exprimer en français. Si à ce niveau, ils ne savent pas s'exprimer, ça veut dire que notre éducation nationale est en faillite complète.
Alors justement, Bernadette Tokouaoulou, au niveau de l'éducation, vous, qu'est-ce que vous préconisez comme plan national, par exemple?
Mais refaire l'éducation à la base, primaire, secondaire, universitaire, supérieur, en axant l'universitaire et le supérieur sur la technique, sur les métiers dont nous avons besoin. Il faut que l'éducation nationale soit d'abord une éducation de misère. Il faut que nous puissions débloquer les fonds pour que les enfants puissent avoir un petit déjeuner ou ne serait-ce qu'une bouillie avant d'aller à l'école. Parce que lorsqu'un enfant vit dans la misère, il ne mange pas, il n'étudie pas. Nous devons faire de notre éducation nationale une priorité.
Bernadette Tokouaoulou, on sait que l'éducation est devenue gratuite donc en République démocratique du Congo. Est-ce que cela veut dire que la cantine, s'il y en a une, n'est pas gratuite?
On affirme politiquement que l'éducation est devenue gratuite en République démocratique du Congo et moi je sais que les gens payent pour que leurs enfants étudient. Et lorsqu'ils ne payent pas, il y a 100 élèves, 150 élèves dans une classe et il est impossible de les faire étudier. Donc l'éducation gratuite dont vous parlez est à l'heure. Dans notre pays, 86% du budget de l'État serait consacré au paiement des salaires et des frais de fonctionnement des corps constitués, y compris le président de la République. Je dis « serait » parce que bien sûr, ils ne veulent communiquer aucun chiffre. Je dis que si je suis présidente de ce pays, ce ne sont pas les politiques qui vont s'enrichir et qui auront des salaires faramineux, non. Si les gens veulent devenir riches, ils doivent être commerçants, hommes d'affaires, miniers, et non pas ministres, présidents de la République, députés. Les fonctions politiques ne rapporteront rien. Le budget maintenant sera en priorité consacré à la défense nationale, ensuite à l'éducation, trois, à l'éradication de la corruption et aux infrastructures. Le premier acte que je vais poser, c'est d'inaugurer une grande prison dans la banlieue de côté de Maluku pour que tous ceux qui sont corrompus puissent finir en prison. S'ils sont condamnés à 10 ans, ils feront 10 ans. Il n'en sera plus question de grâce ou de quoi que ce soit, parce que c'est la corruption qui tue le pays.
En ce qui concerne le budget de l'État, vous, qu'est-ce que vous feriez? Vous avez parlé de l'Est de la RDC. On sait qu'il y a le travail minier en République démocratique du Congo, entre autres.
La première chose, c'est le budget que l'État recouvre actuellement, sans trop d'efforts. Et donc 86% est destiné à ce que vous savez. Ce budget-là sera redistribué de manière à ce qu'on puisse d'abord se concentrer sur l'armée, sur l'éducation, sur la lutte contre la corruption et dans les infrastructures, nous allons mettre la santé. S'agissant maintenant des ressources minières, que ce soit les ressources au Katanga, que ce soit les ressources au niveau du coltan, vous savez, les ressources n'ont jamais profité à la population pour la simple raison que le peu de ressources qui sont générées servent à la corruption. Alors pourquoi voulez-vous que les miniers et tous ceux qui trafiquent le coltan puissent payer aussi leurs impôts et les taxes? Mais s'ils voient qu'il n'y a plus de corruption dans notre pays, que l'argent des taxes, des impôts ne sert pas à enrichir les dirigeants, je crois que toutes ces sociétés seront prêtes à avoir un comportement juste vis-à-vis de l'État congolais et à nous donner notre dû en termes de taxes raisonnables.
Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi. à travers le regard des femmes et des jeunes.
Bernadette Okwaoulou, en tant que candidate à la présidentielle, vous allez être confrontée à d'autres politiciens, on va dire des grandes figures de la politique aussi, comme Moïse Katumbi, le président Félix Tshisekedi lui-même et d'autres. Donc comment comptez-vous faire la différence? Parce que là, il faut avoir une base électorale. Donc qu'en est-il de votre base électorale? Qu'est-ce que vous allez faire exactement pour pouvoir faire connaître votre nom dans l'ensemble du pays?
Je suis connue dans l'ensemble du pays. Je suis connue comme une femme intègre. J'ai été directeur général adjoint de la SNEL, la Société Nationale d'Électricité. Et jusqu'à ce jour, les populations me réclament. Les gens qui ne me connaissent pas sont les gens de la diaspora et les gens qui vivaient dans les villages au moment où j'exerçais de hautes fonctions. J'ai eu toute personnalité indépendante de la majorité de Kabila que j'étais, j'ai eu à dénoncer devant le Parlement un contrat léonin qui visait justement à faire ma base sur le barrage d'Inga. La population me connaît. Les dirigeants que vous citez me connaissent très bien. Ils savent quelle est ma détermination, ils savent quelles sont mes capacités. Maintenant, nous devons affronter une campagne électorale. Des femmes se sont mises déjà à ma disposition dans tous les coins du pays. Elles se sont organisées pour faire les coordinations. Nous devons veiller à ce qu'ils puissent s'élargir au maximum. Nous devons veiller à ce que nous puissions aller au fin fond du pays, dans les villages. Notre plus grande difficulté est de circuler dans tout le pays et ceci demande un budget. Ceux qui veulent bien nous accompagner pour le redressement de notre pays, pour la paix dans notre pays, il faut les convaincre pour financer cette caution, pour financer la campagne. C'est un énorme défi.
Bernadette Okwaoulou, vous avez parlé donc de femmes qui vous soutiennent dans cette campagne. Est-ce que la solidarité féminine est très présente? Est-ce que d'autres politiciennes, d'autres femmes connues comme vous sont là pour vous soutenir?
Je ne vise pas le soutien de femmes spécifiques dans la politique. La plupart des femmes que je connais sont dans des partis politiques et elles devront obéir à une dynamique de leur parti politique. C'est ce que je pense. Moi, les femmes que je veux mobiliser, c'est la femme en général dans tout le pays. Je veux rappeler non seulement aux femmes, mais également aux hommes, que ce sont les femmes qui les ont élevées malgré la misère. Ce sont les femmes qui allaient survivre. Elles continuent à cultiver. Elles continuent à nourrir leurs enfants. Et je veux leur rappeler qu'ils détestent leurs tatamoisi, leurs sagasi. Les tatamoisi, ce sont les sœurs de leur père. Ce sont les sœurs du père qui décident des mariages. Ce sont les sœurs du père qui décident qui va devenir chef de famille. Ils ont oublié les coutumes. Moi, je les connais. Je sais que le pouvoir est entre les mains des femmes parce que les femmes ont les secrets des filiations. Les femmes lokélées sont des commerçantes, elles voyagent. Elles voyagent avec leurs belles sœurs. Elles savent ce qui se passe dans les familles, même si elles ne disent rien. La force des femmes existe. Ma force vient du fait que je suis une femme qui se reconnaît, qui se connaît et qui connaît le pouvoir de la femme. Et je veux rappeler à toute cette population, ils le savent, ils font semblant d'avoir oublié, je vais le leur rappeler.
Bernadette Okwaoulou, on revient sur cette question tout le temps, la question du vote des femmes. Elles sont non seulement nombreuses, mais elles sont aussi très nombreuses à être enregistrées en tant qu'électrices. Dans la plupart des provinces, elles sont même parfois majoritaires. Toutefois, vu les résultats qu'on a généralement quand des candidates femmes se présentent, on sait que les femmes ne votent pas pour les femmes. Donc comment vous voulez les convaincre pour qu'elles votent pour vous.
Nous sommes dans un pays en guerre à l'Est. Les femmes souffrent et pour la première fois, elles vont voir une femme debout qui va leur dire « on va mettre fin à cette terreur, on va rétablir la paix et voilà comment on va faire ». Si elles n'ont plus confiance en la classe politique, alors elles me feront confiance. Et vous savez, il y a beaucoup et d'hommes et de femmes dans notre pays qui ne croient plus à la classe politique, qui n'écoutent même plus les discours politiques. Je leur dis que les choses vont changer. J'ai un autre discours pour la paix.
Terminé, Bernadette Okuaolu, vous avez parlé tout à l'heure de votre célibat, de la culture, etc. L'on sait effectivement que c'est un grand pari à relever. Une dame célibataire qui se présente à la présidentielle en République démocratique du Congo, c'est quelque chose qui n'est pas très courant. Et vous défendez ce célibat la tête haute. Alors, vous avez parlé de ces nombreuses dames qui sont célibataires hein, par la force des choses également, des nombreuses mamans qui ont des enfants et qui sont toutes seules. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à toutes ces mamans qui s'en chargent d'enfants et qui sont elles-mêmes chefs de famille?
Oui, en dehors de ce combat que je veux mener pour l'élection présidentielle, pour l'objectif, il y a la vie de tous les jours. Vous savez, ce combat de femmes célibataires, je le mène depuis que je vis en RDC. Le célibat est quelque chose qui est très, très mal vu. Et je me souviens lorsque on avait fait des propositions pour nommer des mandataires publics et beaucoup avaient présenté leur candidature et j'ai lu les commentaires sur la morale de nos candidatures. Il y avait un ingénieur où on avait écrit, au niveau moral, on avait écrit « c'est un pédophile ». Et il y avait moi-même et une autre femme, on avait écrit « célibataire sans enfant ». Donc ça voulait dire irresponsable. Et moi-même, on avait écrit célibataire avec enfant. Bon, pour être généreuse, d'un point de vue moral, ça voulait dire sans doute une femme légère. Et ça m'a mis en colère. Je suis passée à la télévision pour expliquer qu'il n'y a pas de honte à être célibataire. Et que je suis une célibataire et que je l'assume. Et c'est à partir de là que quand j'allais dans les restaurants, il y avait des serveurs qui me remerciaient, qui me disaient « Maman Tokoaolu, depuis que vous avez parlé de votre célibat, nous n'avons plus honte d'être célibataires ». Il m'est arrivé dans les alimentations de voir des papas, et ça m'est arrivé plusieurs fois, me présenter leur fille en disant « Même si tu ne trouves pas de mari, il faut étudier pour devenir comme Madame Tokoaolu ». Donc en fait, c'est un problème. Il s'est posé, mais je crois que j'ai beaucoup participé à faire évoluer ces mentalités. Nous avons beaucoup de jeunes femmes qui sont célibataires, pas forcément par choix, parce que bon, elles n'ont pas trouvé encore chaussures à leurs pieds. Et il y a beaucoup de femmes qui travaillent. On va pas épouser, elles vont pas épouser n'importe qui parce qu'il est mal vu d'être célibataire. Donc, je crois que j'ai contribué pour changer cette image de la femme célibataire dans la vie de tous les jours. Mais maintenant, au sommet de l'État, alors c'est encore une lutte que je vais entamer avec les femmes. Elles vont me soutenir et on va s'expliquer. Et on va rappeler à tous les hommes qui c'est de l'hypocrisie de penser qu'une femme célibataire ne peut pas être au sommet de l'État dans la mesure où leur propre mère leur a permis d'être ce qu'ils sont, plus sans doute que leur père. Parce que dans la misère, ce sont les femmes qui arrivent à joindre les deux bouts dans les foyers.
Alors justement, Bernadette Tokoaolu, je sais que vous avez l'habitude de dire qu'avoir un mari, c'est aussi s'en occuper. Donc si on veut terminer un petit peu avec la joie au cœur, on pourrait se dire que finalement, si vous êtes présidente, vous aurez beaucoup plus de temps à consacrer à la population, n'est-ce pas? C'est cela en quelque sorte?
Et je ne dirais pas fontaine, je ne boirai pas de tonneau, mais si je suis président de la République, il n'y aura pas de premier monsieur.
Bernadette Tokwaoulou, je rappelle que vous êtes personnalité politique en République démocratique du Congo. C'était vraiment un grand plaisir de vous entendre dans cette émission avec nous, Le Monde au Féminin. On vous dit à très bientôt.
Je remercie la Voix de l'Amérique parce que je sais qu'on m'écoute partout.
Au revoir.
Merci beaucoup, Nathalie.